êtes branché sur Radio B dans votre After Work Metal, la seule émission qui sent la sueur des pits et les cassettes usées. Ce soir, émission un peu spéciale, spéciale 1996. Une année charnière, une année où le métal a muté, explosé, changé de peau, mais aussi une année qui compte encore plus pour moi. Parce que ces albums, ces sons, cet âge, ils ont exactement 30 ans aujourd'hui. Et moi aussi. Oui, oui, en ce mois de mai, je fête mes 30 ans. Alors ce soir, ce n'est pas juste une émission. C'est un voyage personnel. Un retour aux sources, à une année que je n'ai pas vécue musicalement, mais qui, d'une certaine manière, m'a construit.
We'll be right back.
death metal s'essouffle, le grunge disparaît peu à peu et le metal cherche donc une nouvelle identité. Et là, tout bascule. Sepultura débarque avec Roots. Le choc est frontal. Le thrash se mélange aux percussions tribales, aux grooves, à quelque chose de viscéral. Derrière tout ça, tout le métal des années 2000 va en hériter. Et vous savez quoi ? De la chaleur des jungles brésiliennes au froid qui mord les os des forêts scandinaves, le métal ne voyage pas, il mute. Il n'emprunte pas des routes, il en creuse de nouvelles, sous la terre gelée. Écoutez, les guitares ne hurlent plus, elles pleurent, elles ne déchirent pas la chair, elles ouvrent des veines et laissent couler la mélancolie la plus sombre. 1996, c'est l'année où la mort a appris à chanter juste. In Flames avec The Chester Race. Les guitares deviennent mélodiques, presque émotionnelles, mais tout en restant agressives. Le mélodique death metal naît vraiment ici et influencera même le metalcore des années plus tard. J'ai un mot qui me vient quand j'ai 1996 en tête, c'est trahison. C'est le mot qui brûle les forums, les fanzines, les consciences puristes, parce qu'il y a un géant qui ose couper ses ailes, couper ses cheveux et marcher dans la boue du rock sudiste avec des bottes en cuir. Ils ont crié au meurtre, mais ils n'avaient pas compris. Ce n'était pas une chute, c'était un saut dans l'inconnu. Un groove maléfique, une arrogance nouvelle. Le métal n'appartient à personne, pas même à ses dieux. Cheveux courts et ambiance inattendue, détestée à sa sortie mais aujourd'hui réécoutée autrement, l'Aude de Metallica montre que le métal s'autorise enfin à changer. Et pendant que les titans se salissent un petit peu en public, dans les cryptes, l'ombre se fait baroque. On pose du rouge à lèvres sur le vampirisme, on lasse les corsets sur les cadavres, on écrit de la poésie avec du sang de jeune fille. Le black metal ne veut plus juste brûler des églises, il veut séduire les fantômes, danser avec les succubes et signer son pacte à l'encre violette et à la cire noire. La peur devient élégante, l'horreur devient un art.
Thank you.
Je tente très bien de faire un peu le même son de voix, mais je pense que je me déchirerais la gorge à faire ça. Cradle of Filth sort donc Dusk and Her Embrace en 1996. C'est sombre, c'est vampirique, presque cinématographique. Le black metal se pare d'une nouvelle dimension esthétique. Mais bon, l'élégance, c'est un petit peu pour les musées, et 1996 veut du chaos en prime time. Il veut un antéchrist en fond de teint et en talons aiguilles. Il veut que ta mère ait peur et que ton pasteur fasse une crise cardiaque, que les journaux crient au scandale. Le métal n'est plus une musique, c'est un crime culturel. Et le coupable signe son forfait avec du rouge à lèvres et un sourire de cadavre. Eh ben vous savez quoi, ça peut arriver, il s'avère que certaines chansons des fois se bloquent, c'est ce qui nous arrive avec Marilyn Manson, que vous n'aurez donc pas sur ce coup-là, mais je vous promets que vous pourrez le retrouver sur une prochaine émission, comme quoi hein, les petits défauts techniques arrivent. Alors, donc, j'allais vous parler donc, de Marilyn Manson qui nous sortait donc Antichrist Superstar et qui explosait avec cet album-là. Une provocation industrielle, imagerie dérangeante, le métal devenait culturel grâce à Manson, médiatique et dangereux. Et oui, cette fois c'était sur le métal, mais je vous propose que si on enlevait tout justement, si on enlevait un peu les guitares électriques, si on enlevait les batteries, si on enlevait tous les cris, les trucs un peu d'horreur et tout ça, et si on ne laissait que l'âme du métal en elle-même, sa colonne vertébrale, son deuil et sa grandeur, puisqu'il y a 4 violoncelles, 4 archets, et le fantôme de Cliff Burton qui rôde entre les notes. Oui, oui, Cliff Burton de Metallica. Preuve que la puissance n'a pas besoin de distorsion. Elle a besoin de vérité et elle a besoin de moelle épinière. Est-ce que vous connaissez Apocalyptica ? Bon, alors j'ai bien. Celle-là, elle est bien passée, hein, contrairement à celle de Marilyn Manson juste avant. J'ai vérifié, toutes les autres vont passer comme il faut. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Et c'était donc Apocalyptica qui sortait donc son tout premier album en 96, hein, Plays Metallica by Four Solos, et qui est donc une musique sans guitare, sans batterie, juste du violoncelle, des violoncelles et puis des contrebasses, comme ça, des choses simples, efficaces, qui permettent de revoir un peu la musique sous un autre angle, le métal sous un autre angle. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, ils ont une batterie sur scène et tout ça, hein, mais puis ils s'entourent de beaucoup de musiciens totalement talentueux et ça, c'est juste incroyable. Mais effectivement, leur tout premier album qui était sur Metallica était juste vraiment incroyable à écouter, en tout cas. Je vous propose qu'on retourne à la source, à la boue, au cri primal qui précède les mots. Plus de costumes, plus de symphonie, plus de concept, juste la douleur, juste la laideur assumée, juste le son d'une enfance brisée qui se bat contre les murs de ton crâne. Le métal redevient thérapie de choc, une mise à nu qui fait très mal à regarder.
Somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, 'cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's school and it be the only way that I can truly be free. So I dream and struggle, hide it 'cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know your fucking name, so what? Let's fuck.
Eh, franchement, vous le sentez ce flow, hein? Korn enfonce le clou après son premier album avec Life is Peachy, viscéral, dérangeant et sans filtre. Le new metal s'installe complètement et avec lui une nouvelle génération. Mais il y a une froideur encore bien plus ancienne que ça, une froideur qui ne vient pas des villes en ruine, mais des montagnes éternelles, une majesté noire, une structure de glace et de haine. Puisque le black metal devient une cathédrale, pas une église à brûler, une forteresse plutôt à ériger, avec des riffs qui sont des piliers, des blast beats qui sont des avalanches, et l'obscurité qui se dresse. Et cette obscurité, elle est magnifique.
Ah!
Satyricon impose Nemesis Divina à son public et au public metal en général. Le black metal devient structuré, majestueux, glacial. Une évolution majeure pour toute la scène extrême. Et dans cette même obscurité, certains choisissent la répétition et la transe. Et au cœur de cette forteresse black metal, il y a une cellule. Une seule note répétée jusqu'à l'extase, jusqu'à la folie. Pas de colère, pas de gloire, juste l'obscurité pure. L'essence du néant mise en musique. Une influence si profonde qu'elle va engendrer des océans de bruit ambiant, des forêts de désespoir atmosphérique. Le son du vide qui se regarde dans le miroir. Les puristes auront reconnu Burzum. Burzum qui nous sort donc Philosophem en 1996, minimaliste, hypnotique, dérangeant, une influence énorme sur le black metal atmosphérique. Et dans le cœur gelé de 1996, il y a quand même une petite flamme qui naît, qui subsiste, qui reste, qui chauffe, une flamme qui ne brûle pas, qui illumine, qui parle de forêts enchantées, de dragons, de rêves d'enfants gardés intacts, puisque oui, le métal ose aussi la beauté à travers toute cette violence, la vraie beauté, la fragile, la lyrique. Il n'a plus peur des mélodies qui font pleurer, des cœurs qui font lever les yeux vers les étoiles, puisque l'espoir renaît sous forme épique.
Oh,
Et c'était donc Nightwish, créé donc en 1996. Le groupe compose assez rapidement des titres, et même si le premier album Angel Fall First sort officiellement en 1997, on connaissait déjà certains titres un petit peu comme The Forever Moments. Une voix lyrique, une ambiance fantasy, le métal symphonique commence doucement à arriver, à respirer. Mais réveillez-vous ! La fantasy, c'est pour quand le monde va bien. Et le monde, il brûle. En 1996, il a besoin de riffs. De riffs qui sont des slogans, de grooves qui sont des émeutes, de paroles qui sont des cocktails Molotov. Le métal va sortir de sa cave. Il en a marre des trolls, des licornes et il veut du sang et de la politique. Il veut faire trembler le Pentagone, pas la tour de Sauron. C'est l'heure donc du combat, pas de l'évasion.
The microphone explodes, shatter in the mold. Need a trumpet, hits like De La Hoya.
Ce n'est pas juste un album, c'est une déclaration de guerre. Riff tranchant, groove implacable, flow rageur et surtout un message politique frontal. Rise Against the Machine, c'est une fusion ultime entre le metal, le rap et le funk, avec un engagement politique assumé dans le metal mainstream. C'est un disque qui ne divertit pas, il confronte. Et après cette colère exprimée par Rage Against, il reste le vide, le grand vide américain. Un vide si profond qu'on y entend encore l'écho d'une voix brisée au loin. Une voix qui a dit non avant tout le monde. Une voix qui a chanté la douleur sans phare, sans costume, sans manifeste. Juste la vérité. Et en 96, cette voix, c'est un fantôme. Mais son chant est plus vivant et plus brutal et plus vrai que jamais. L'esprit du grunge dans son linceul de boue et de sang. Nirvana, juste pour vous.
I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. So are you? Look, I'm his. Sunday morning is every day for all I care. I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Today I shave my head. I'm not sad. I'm just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny, that's okay.
Yeah!
Allez, on applaudit tous ensemble. Mais dis donc, comment est-ce que je peux passer du Nirvana alors que Nirvana s'est arrêté avant 96 avec la mort de Kurt Cobain ? Eh bien, tout simplement parce que le groupe a décidé de sortir un live avec un concert enregistré en 1991, celui du live donc From the Muddy Banks of the Wishka. Et c'était donc un live brut, presque douloureux, puisque le grunge est donc mort avec Nirvana, mais son esprit reste. Et les vibrations de ce séisme vont traverser même l'Atlantique. Elles atterrissent en France, et oui, se teintent de cold wave et de désinvolture parisienne, le rock se fait androgyne, électronique, clinique. Il regarde le métal s'agiter un petit peu avec un sourire en coin, parce que le chaos a aussi une version chic, une version unisexe.
Yeah.
Et c'était donc Indochine avec leur album Wax. Plus sombre, plus électronique, le rock français évolue lui aussi avec son époque. Et franchement, ouais, c'était une petite particularité, parce qu'Indochine au milieu de tout ce métal, hein, ça peut paraître bizarre, mais quand même ça fait du bien de temps en temps. Puis Indochine, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. Et au-dessus de tout ce maelstrom un petit peu qu'on a pu écouter, il y a une ombre qui plane. Une ombre à l'envergure d'un avion avec un pilote à son bord. Elle était là avant, elle sera là après. Elle a enseigné la mélodie à In Flames, l'épique à Nightwish, le concept à tout le monde. En 1996, alors que tout explose, cette ombre rappelle d'où tout vient. Elle rappelle que le futur a besoin de racines, des racines en forme de riff qui voyagent dans le temps. Iron Maiden sort Seven Sons of the Seven Sons. Progressif, conceptuel, visionnaire. Son héritage irrigue toute la scène mélodique des années 90 et même après. Alors voilà, 1996, ce n'était pas une année, c'était un Big Bang. Un univers en expansion folle, où les tribus brésiliennes dansaient avec les mélodies suédoises, où les violoncelles pleuraient sur du trash, où les antéchristes draguaient les vampires. Plus de règles, plus de frontières, juste une question. Et si on essayait tout ça ? Et ils ont tout essayé. Et on en vit encore les ondes de choc. Alors éteignez vos amplis, mais gardez le feu en vous, parce que le futur, ça commence toujours par se rappeler le passé. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très bientôt pour une émission pour laquelle je n'aurais même pas choisi les titres, mais bon, vous verrez bien ça. Bonne nuit et restez bien dérangés dans votre vie.